Bien. Alors, la dernière fois, on avait commencé l'étude des attributs de Dieu. Et autant qu'ils me souviennent, on avait vu les attributs internes de Dieu d'abord, et ensuite on avait commencé les attributs de Dieu en relation avec l'univers. Le premier de ces attributs qu'on avait vu, c'était l'omnipotence. Et nous arrivons maintenant à l'omniprésence de Dieu. Le deuxième de ces attributs, qui se manifeste uniquement en relation avec la création, avec l'univers, et qui se définit par la possibilité qu'a Dieu d'être présent dans tous les lieux en même temps, et notamment d'être présent pour ses créatures. Alors, l'attribut l'omniprésence de Dieu doit être considéré en relation avec la providence de Dieu, c'est-à-dire la capacité qu'a Dieu de conduire toute chose selon sa volonté. Mais cette omniprésence de Dieu qui se manifeste dans la mesure où effectivement Dieu veut conduire les choses selon sa propre volonté, a aussi à voir avec une direction de Dieu dans des circonstances qui sont tout à fait particulières. Je m'explique. Quand nous disons que Dieu est présent partout dans l'univers, quand nous disons que Dieu est présent partout à ses créatures, il y a différents degrés de présence de Dieu, je dirais. Dans le livre de Jérémie, Dieu se définit comme celui qui remplit la terre et le ciel. Nous avons là donc une définition biblique de l'omniprésence. Mais il y a des lieux et il y a des circonstances et des temps où la présence de Dieu est plus sensible, plus forte qu'à d'autres. C'est d'abord le cas sur la terre. Il y a des lieux et des temps où Dieu choisit de manifester sa présence d'une manière particulière à ses créatures. Dans l'Ancien Testament, notamment, il y avait les sanctuaires, plus particulièrement le sanctuaire de Jérusalem, dans le temple. Le temple, qui était un espace délimité par un certain nombre de degrés de sainteté, le parvis, la cour intérieure, le lieu saint et le lieu très saint, était autant de degrés de manifestation de la présence de Dieu. Et le lieu très saint, et plus exactement le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche, qui était recouvert par les ailes déployées des chérubins d'or battu qui le recouvraient, était l'endroit où la présence de Dieu était la plus sensible et la présence de Dieu était la plus forte. Depuis la venue de Jésus, le dernier a dit, ce n'est plus ni à Jérusalem ni sur cette montagne, mais c'est en esprit en vérité. Il n'en demeure pas moins vrai que le même phénomène se retrouve aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, non plus dans des temples de pierre, mais dans des temples spirituels faits de pierres vivantes. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque les cœurs sont disposés d'une manière particulière, la présence de Dieu peut se manifester d'une manière particulière. Et cette manifestation particulière de la présence de Dieu est en rapport avec le plan de Dieu. Quand Dieu choisit de révéler sa présence, c'est parce qu'il veut dire quelque chose à l'homme et c'est parce qu'il veut le conduire d'une manière précise. Et c'est pourquoi omniprésence et providence de Dieu sont liées. Deuxième remarque. Il y a, s'il est vrai encore une fois, que Dieu est celui qui remplit la terre et le ciel, s'il est vrai que Dieu est présent à chacune de ses créatures, il y a des créatures avec lesquelles Dieu est davantage qu'avec d'autres. Et c'est le cas notamment avec ceux qui sont ses enfants. La nouvelle naissance fait en sorte que s'accomplit pour nous la promesse que Jésus disait dans Jean 16, « Si quelqu'un croit en moi, le Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui. » La plénitude du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, sont autant de réalités qui rendent davantage sensible la présence de Dieu, ou davantage intense la présence de Dieu, pour l'enfant de Dieu que pour le païen. Bien sûr, Dieu peut être présent aussi à côté du païen, dans ce sens que si le païen l'invoque, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il est dans la détresse, ou tout simplement parce qu'il le cherche, Dieu sera présent. Mais dans la mesure où quelqu'un lui ouvre son cœur, Dieu, la présence de Dieu est plus intense dans la vie de ce dernier que dans la vie du païen. Jésus ne disait-il pas « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Enfin, troisième remarque, il y a des lieux dans l'univers en soi où la présence de Dieu est aussi plus intense. Ce lieu, c'est ce que la Bible appelle le ciel. Or, le ciel, ce n'est pas, comment dirais-je, ce que nous pouvons voir, la voûte céleste. Mais le ciel, c'est précisément le lieu qui est un petit peu comme l'était le lieu très saint dans le temple, et qui est le lieu très saint de l'univers, celui où la présence de Dieu atteint son maximum d'intensité. Mais en même temps, quand Dieu est présent là, dans le ciel, il remplit aussi, ainsi que disait Salomon, les cieux des cieux, l'immensité des cieux, l'immensité de l'univers et la terre. Dans un autre texte, Ésaïe 64, le prophète dit ceci, « J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis auprès de l'homme dont le cœur est contrit et humilié. » Donc il y a là, dans cette affirmation, quelque chose de paradoxal. D'abord, le rappel de la transcendance de Dieu. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Donc, un lieu qui, par définition, est inaccessible à l'homme, mais en même temps, ce Dieu qui remplit la terre et le ciel, ce Dieu si grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il est auprès de l'homme dont le cœur est contrit et humilié. Celui qui s'abaisse, celui qui se fait petit devant Dieu, ce Dieu si grand, ce Dieu tellement insaisissable, vient habiter dans la vie, dans le cœur de celui qui ainsi humilie son âme devant lui. Enfin, il y a un lieu dans l'univers où la présence de Dieu est quasi nulle, c'est l'enfer. L'enfer, c'est justement le lieu où Dieu a choisi volontairement de ne pas être. Parce que là se trouvent les créatures qui refusent et qui rejettent sa présence. Que ce soit les anges déchus, les anges qui se sont rebellés contre lui, ou que ce soit les créatures humaines qui, elles aussi, se sont dressées contre lui et ont rejeté librement sa présence. Et Dieu donc choisit volontairement de priver ainsi ces êtres-là de cette présence qu'ils ont rejetée. Et c'est cela, justement, la souffrance de l'enfer. L'enfer, c'est d'être privé de la présence de Dieu. Le prophète le dit dans un texte, « Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Or, être privé de la présence de Dieu, c'est cela, l'enfer. Dans ce monde-ci, le païen, l'athée, le rebelle, n'est pas entièrement privé de la présence de Dieu. Bien sûr, cette présence de Dieu autour de lui est minimale. Mais un jour viendra où il sera définitivement et éternellement privé de la présence de Dieu. Il saura ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Et la souffrance qui résulte de cette privation de la présence de Dieu, la Bible la compare à celle d'un feu dévorant qui ne s'éteint pas. Alors, Dieu entre en relation personnelle et il demeure avec ceux qui le cherchent. Et cela, c'est justement la conséquence pratique qui découle de la doctrine de l'omniprésence de Dieu. Et quand nous disons que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que Dieu se rend présent par ceux qui le cherchent, Dieu est présent pour ceux qui l'invoquent dans la totalité de son être et dans la totalité de sa personne. Il n'y a pas de division de la personne de Dieu. Comme si parce que Dieu se devait d'être présent à de multiples personnes à la fois, il y avait une division en lui, il y avait soustraction. Non. Celui qui invoque Dieu voit la présence du Seigneur inonder sa vie, encore une fois, dans la totalité de la personne divine. Dans tout ce qu'il est, dans toute sa force, dans toute sa puissance et dans tous ses attributs. Maintenant, quand nous disons que Dieu est omniprésent, bien sûr, nous faisons ici référence à un cadre spatial. Dieu est présent dans l'espace, dans tous les lieux de l'espace, quels qu'ils soient. Mais il faut envisager cette omniprésence de Dieu en relation avec son éternité. Dieu est présent dans tous les lieux, mais il est présent aussi dans tous les temps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de délai dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de retard. Tu crieras et il répondra « Me voici ». Quel que soit le temps où tu l'invoques. Dieu habite à la fois l'espace et le temps. L'éternité et l'espace. Bien sûr, ainsi que nous disions tout à l'heure, la révélation de la présence de Dieu est plus intense dans le ciel. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la perfection de ceux qui l'habitent. L'intensité de la présence de Dieu dépend de la sainteté de ceux qui l'invoquent. Le ciel est le lieu qui est peuplé par les esprits des justes parvenus à la perfection, nous dit l'Épître aux Hébreux. Étant parvenus à la plénitude de la perfection et de la sainteté, ils atteignent aussi la plénitude de la connaissance et de la présence de Dieu. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui, nous dit l'Épître aux Hébreux également, je crois. Troisième remarque, l'omniprésence de Dieu est sans variation ni progrès. Elle est absolument immuable. Il n'y a pas eu un temps où la présence de Dieu remplissait plus ou remplissait moins l'univers. qu'elle ne le remplit maintenant. Car si cela était, s'il y avait une progression, alors cela signifierait en sens inverse que dans un temps infini, la présence de Dieu était pratiquement nulle. Donc Dieu n'était pas. C'est pourquoi la doctrine de l'omniprésence implique qu'il n'y a dans la présence de Dieu, dans sa possibilité de remplir la terre et le ciel, aucune variation et aucun progrès. Dieu a toujours rempli la terre et le ciel de la même manière. Et jusqu'à la fin, et pour toute l'éternité, il remplira tout l'univers qu'il a créé de la même manière. Quatrième remarque, l'omniprésence de Dieu ne peut pas être mesurée. Car qui dit mesure, dit limite. Et si nous pouvions mesurer l'omniprésence de Dieu, alors cette présence serait limitée et elle ne serait plus totale. Enfin, dernière remarque, l'omniprésence de Dieu est volontaire. Et la doctrine de l'enfer nous amène à conclure que Dieu peut volontairement priver de sa présence des êtres ou des lieux. Et de, à l'inverse, c'est par amour et par bonté que Dieu remplit l'univers. Car ce faisant, il le soutient. C'est par lui, ainsi que disaient les créatures célestes qui étaient devant le trône dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 au chapitre 5, c'est par lui que tout subsiste. Non seulement par lui que tout ce qui est a été créé, mais c'est par lui que tout subsiste. Et c'est parce que Dieu manifeste dans l'univers sa présence d'amour, sa présence de miséricorde, que l'univers peut continuer à subsister, que l'ordre qu'il a introduit dans l'univers peut rester inchangé et immuable aussi longtemps que Dieu le voudra, aussi longtemps que la fin ne sera pas venue et que Dieu ne mettra pas fin à cette création pour lui substituer, ainsi que nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Troisième attribut en relation avec l'univers, l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu, c'est l'attribut par lequel Dieu a une connaissance immédiate et instantanée de tout ce qui se passe dans sa création. C'est un petit peu cette doctrine qui est évoquée par Jésus quand il dit dans le Sermon sur la montagne, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin. » Dieu sait. Dieu connaît toutes choses. Rien ne peut échapper à sa connaissance. Aucun acte, aucune parole, aucune attitude, aucune pensée. Tout est nu et découvert devant lui, dira l'Épître aux Hébreux. Il a cette connaissance d'une manière, encore une fois, instantanée et immédiate. Il n'a pas besoin de faire de recherche pour connaître, il voit. L'omniscience est donc l'attribut par lequel Dieu appréhende la somme totale de tous les faits de l'univers en même temps. Et l'on comprend que devant une telle possibilité, le psalmiste
dans le psaume 139, ce sont tout petits. Une telle connaissance, dit-il, est au-delà de ma portée. Ça va de soi. La capacité d'appréhender en un seul instant tous les faits simultanés qu'il y a dans l'univers. Mais non seulement cela. Non seulement les faits présents, mais en même temps les faits à venir. Dieu voit cela d'un seul regard. Il embrasse cela d'un seul regard. Et il peut connaître ce qui est, jusque dans les plus infinis détails. Jésus va jusqu'à dire, les cheveux de votre tête même sont comptés, et il n'en tombe pas un sans que votre Père céleste ne le sache. Mais également, Dieu appréhende au même moment, dans le même regard, tout ce qui s'est passé hier. Il n'oublie rien de ce qui s'est passé. Et en même temps, il voit dans un même regard ce qui sera demain et ce qui sera dans des milliers, dans des milliards d'années. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Cette science comprend toute l'éternité. D'un seul regard, il embrasse toute l'éternité. Alors nous ferons la même remarque que pour l'attribut précédent. Cette connaissance n'est pas progressive. Elle n'est pas acquise, elle n'est pas apprise. Car si c'était une connaissance progressive, là aussi il y aurait une limitation dans la possibilité que Dieu a de connaître. S'il y a progrès dans la connaissance de Dieu, cela signifie qu'il y a des faits qui lui échappent. Et s'il y a progrès dans la connaissance de Dieu, cela signifie qu'au commencement, il y a eu un temps où Dieu n'appréhendait pas la somme totale de ses faits. Or, le propre de Dieu, c'est qu'il est infini, ainsi que nous l'avons dit, illimité, donc son savoir, sa connaissance aussi est illimitée, donc immuable. Dieu a toujours été omniscient, Dieu a toujours été capable d'appréhender la totalité des faits de l'univers dans toute l'éternité, et Dieu en sera toujours capable. La perfection de Dieu n'est possible qu'en cela. Et c'est précisément parce que Dieu a cette connaissance objective et parfaite de tous les faits de l'univers que Dieu peut être le juge de l'univers. Et ses jugements seront justes parce qu'il ne se trompera pas. Il n'interprétera pas les faits d'une manière subjective, donc erronée. Mais Dieu, parce que justement il a cette connaissance totale des faits, des motivations, des intentions les plus cachées et les plus secrètes, Dieu peut ensuite juger cet univers avec la plus parfaite et la plus rigoureuse des justices. Et ceux qui seront amenés à être jugés par lui ne pourront en aucune manière objecter, parce que justement le juste juge aura le regard exact sur tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi Dieu est souvent représenté aussi comme le juge, parce qu'il comprend seul ce qui est illimité. Et c'est pourquoi la connaissance humaine aussi est une connaissance qui doit s'incliner devant la connaissance de Dieu. La doctrine de l'omniscience de Dieu conduit l'homme dans une grande humilité. Parce que finalement, il est amené à dire, comme le disait Socrate, « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. » Et lorsque sa compréhension des choses, sa vision des choses, semblera contredire celle de Dieu, l'homme sera amené à s'incliner devant son Créateur et dire, « Eh bien, c'est toi, Seigneur, qui as la vision juste. Et moi, dans ma compréhension limitée, tellement bornée, c'est moi qui ai la vision fausse. Et par conséquent, j'accepte ce que toi tu montres et non pas ce que moi je considère comme étant exact. » Maintenant, l'omniscience de Dieu nous permet d'avoir une entière confiance dans ce que Dieu révèle. Une entière confiance quant à la manière dont Dieu conduit les hommes dans la révélation de sa volonté, de ses commandements. Une entière confiance dans ses promesses. Une entière confiance, par exemple, quand la révélation de Dieu nous parle des origines du monde. Dieu est celui qui sait ce qu'ont été les origines du monde et la révélation de sa création, eh bien, est la révélation juste et vraie. Il en va de même pour la révélation prophétique. La révélation des événements à venir, encore à venir, est absolument certaine. Parce que Dieu sait d'avance ce qui sera. Et quand Dieu a révélé ce qui serait, eh bien les choses seront ainsi. Toutefois, ainsi que nous le disions tout à l'heure, Dieu est celui qui sonde les choses infinies. C'est celui qui trace le plan de l'univers, qui lui assigne un but, et par conséquent qui trace et qui conduit aussi la vie de ceux qui veulent se confier en lui, qui veulent lui abandonner leur vie. Mais Dieu est celui aussi qui s'occupe des plus petites choses. Nous citions tout à l'heure, les cheveux de votre tête sont comptés. Et Dieu est capable de s'occuper des plus infimes détails de nos vies. Prenez par exemple, juste un cas, celui des cristaux de neige. Les cristaux de neige, quand on les regarde dans un microscope, il n'y en a pas un qui est semblable. Pas un. Et ce sont des particules microscopiques. Pas un n'est semblable à l'autre. Dieu s'occupe de l'infiniment petit, des moindres détails, comme précisément de donner à chaque flocon de neige une forme différente. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Dieu s'occupe des moindres détails. Et c'est pourquoi il peut s'occuper de chacune de ses créatures, même la plus petite, même la plus insignifiante. Peut-être certaine que Dieu s'occupe de lui, que Dieu est capable de s'arrêter dans sa vie pour prendre en compte les moindres détails de son existence, pour prendre en compte les moindres de ses problèmes. Jésus disait cela sous une autre forme quand il disait « Dieu est celui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui revêt l'herbe des champs, des choses insignifiantes. Vous valez beaucoup plus, disait-il, que le moindre de ces oiseaux. Alors, votre Père sait ce dont vous avez besoin. » Et l'omniscience de Dieu est là justement comme quelque chose d'extraordinaire, un encouragement extraordinaire pour nos vies. Parfois, certains se disent, mais Dieu va-t-il s'occuper de choses aussi insignifiantes dans ma vie que, je ne sais pas moi, par exemple, me faire trouver une place de parking quand tout est plein. Est-ce que nous pouvons prier pour des choses aussi futiles? Mais oui, justement. Dieu est celui de l'infiniment grand, mais aussi celui de l'infiniment petit. Et annoncer d'avance la trahison de Judas. Ça ne veut pas dire que Jésus ou Dieu a voulu que Judas trahisse, mais Dieu savait que Judas trahirait. Et il a été capable d'annoncer. Ce n'est pas parce que la trahison de Judas a été annoncée que Judas a trahi, mais c'est parce que Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Judas qu'il a été capable d'annoncer que Judas trahirait. Même chose en ce qui concerne le reniement de Pierre. Or, précisément, l'omniscience de Dieu permet à Dieu de prendre en compte les intentions cachées et secrètes de tous les hommes et en laissant à chaque individu la plus totale liberté de faire tout concourir à son plan. Il savait que Judas trahirait. Il savait que Judas avait un cœur qui était tordu intrinsèquement. Dans le plan de Dieu, il fallait qu'il y ait un tel homme pour que le Fils de Dieu soit livré entre les mains des pécheurs et pour qu'il puisse accomplir son sacrifice. Et Dieu a pris cet homme, Judas, pour qu'il accomplisse ce rôle. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, dit Jésus. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Il vaudrait mieux pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. Encore une fois, ça n'est pas, comment dirais-je, une prédestination au sens étroit du terme, comme si Judas avait été programmé pour être le traître. Mais l'omniscience de Dieu, pardon, avait permis à Dieu de connaître ce qu'il y avait dans le cœur de Judas, de savoir comment Judas réagirait, placé en face du ministère de Jésus, placé ensuite devant les tentations de trahison proposées par les grands prêtres, comment il réagirait en face de l'argent qu'il aimait, des 30 pièces qu'on allait lui offrir. Et Dieu a utilisé cet homme, Judas, pour l'accomplissement de son plan. Dieu utilise ainsi tous les hommes. Paul nous dit cela dans l'Épître à Timothée. Certains, il les utilise comme des vases d'honneur. D'autres, il les utilise comme des vases d'un usage vil. Dans une grande maison, il faut de tout. Il faut des vases d'honneur, mais il faut aussi des vases de terre pour les tâches les plus viles. Et pour l'accomplissement du plan de Dieu, il faut tout cet ensemble. Bien sûr, il faut des vases d'honneur. Bien sûr, il faut des hommes et des femmes qui lui soient consacrés corps et âme et qui accomplissent son œuvre. Et cela, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui acceptent de se tourner vers lui, qui naissent alors non pas de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et puis il y a les autres. Ceux qui se détournent de la voie de Dieu, ceux qui se rebellent contre Dieu, qui se dressent contre lui. Eh bien ceux-là, dans leur rébellion même, Dieu les utilise pour son plan. Exemple, le roi d'Assyrie. Ce roi qui était un roi idolâtre, qui blasphémait contre le Dieu d'Israël. Et pourtant, Dieu dit de lui, « Je sais toutes ces choses. Je sais quand tu es furieux contre moi. Je sais quand tu blasphèmes contre moi. Mais tu es comme la verge de ma colère dans ma main. Je t'utilise pour châtier mon peuple d'Israël dans son égarement pour le ramener à moi. Mais quand je t'aurai utilisé pour ça, si tu vas aller plus loin que ce que moi j'ai prévu, je te briserai. Je briserai l'orgueil du roi d'Assyrie. Même chose, par exemple, dans la fameuse prophétie de Gog. Gog, qui est l'être qui se dresse contre Dieu par excellence et qui est animé de la haine de Dieu et de son peuple, Dieu dit, Gog, dans ce temps-là, je t'entraînerai. Je mettrai une boucle à tes mâchoires et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël pour que tu y tombes. Gog, dans sa fureur, dans sa rébellion contre Dieu, ne sait pas qu'en fait il est un instrument pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Dieu l'utilise malgré lui, sans qu'il n'en sache rien. Parce que Dieu, justement, connaît les motivations les plus cachées, les plus secrètes des cœurs. Et il est capable d'assembler tous ces éléments comme un puzzle gigantesque et faire en sorte que son plan se déroule finalement harmonieusement. Même les méchants contribuent à l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, quelles sont les conséquences pratiques que nous tirons justement de la doctrine de l'omniscience? Eh bien, si nous l'avons dit tout à l'heure, l'humilité. Une science aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Et l'homme, avec toute sa connaissance acquise, technique, théorique, scientifique, eh bien, qu'est-ce que cela en regard de la connaissance de Dieu, de l'omniscience de Dieu? Rien. Et l'homme prend alors la mesure de la vanité de son orgueil quand il se glorifie des connaissances qu'il a ainsi acquises. Deuxièmement, la conséquence qui en découle, c'est la reconnaissance. Reconnaissance de ce que Dieu s'occupe de nous, jusque dans les moindres détails, ainsi que nous disions tout à l'heure. Troisième conséquence, c'est le refus du péché caché. Car ce qui peut être caché devant les hommes ne l'est pas devant Dieu. Les exemples bibliques sont nombreux, que ce soit le cas de David avec Bathsheba, que ce soit d'autres cas nombreux qui sont cités dans la Bible, celui de Caïn, qui pensait ne pas avoir été vu de Dieu. Dieu est celui qui voit, qui lit dans le profond de nos cœurs, et tout est découvert et nu devant lui. La doctrine de l'omniscience de Dieu, le fait de savoir que Dieu nous sonde et nous connaît, comme disait David, nous amène à rejeter de nos vies le péché caché. Troisième conséquence, c'est que, plutôt la critique, pardon, qui pourrait être faite à cela, eh bien, c'est que il y a parfois des textes dans la Bible qui laissent entendre qu'il y a des choses qui pourraient être cachées. Par exemple, lorsque Dieu dit, quand il vient vers Abraham dans l'affaire de Sodome, « J'irai à Sodome et je verrai si leur péché est aussi grave que ce que l'on a dit. » Il semble que là, Dieu ne connaisse pas l'importance encore du péché de Sodome. Mais nous sommes ici dans le domaine des anthropomorphismes dont nous avons parlé, à savoir que Dieu utilise parfois le langage des hommes quand il parle dans sa révélation. Et ce que le texte biblique souligne alors, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas, mais que Dieu examine à fond les motivations profondes de ces gens de Sodome, parce qu'il ne veut envoyer son jugement qu'en dernier recours. Et cela souligne le soin, l'importance que Dieu prend d'examiner avec justice les moindres détails des vies avant d'exercer ses jugements. Maintenant, il y a aussi dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, un élément tout à fait intéressant qui souligne aussi cette doctrine de l'omniscience de Dieu. Lorsque la Bible nous parle de Dieu, elle emploie un temps tout à fait particulier au point de vue grammatical, qu'on appelle le parfait prophétique. Le parfait prophétique, c'est un temps, si vous le voulez, qui a la forme d'un futur et qui a le sens d'un passé dans le texte. Il a la forme grammaticale d'un futur et il a le sens du passé. Et en même temps, il s'applique au présent. C'est un temps qui n'a aucun équivalent dans aucune langue. Et les traducteurs de la Bible sont toujours très très ennuyés quand ils rencontrent ce temps-là. Chouraki avait raison de dire que le temps par lequel il faut traduire le parfait prophétique en français, c'est le présent. Mais en sachant que dans ce présent-là, on englobe toute l'éternité. On englobe le passé, le présent et le futur. Dieu est celui qui voit dans un même regard, encore une fois, le passé, le présent et le futur. Et la langue hébraïque est la seule langue qui est capable de rendre cela d'une manière grammaticale. Enfin, nous dirons que ces trois attributs, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, sont des attributs qui ont besoin pour s'exercer du cadre de l'éternité. Il ne peut pas y avoir d'exercice de ces attributs-là si Dieu n'est pas éternel. Si Dieu est limité dans le temps, soit dans un commencement, soit dans une fin. Et c'est pourquoi ces trois attributs impliquent et sous-entendent l'éternité absolue de Dieu. D'autre part, chacun de ces attributs implique aussi l'existence des deux autres. Il n'y a pas d'omniscience de Dieu s'il n'y a pas d'omnipotence de Dieu. Et s'il n'y a pas d'omniprésence de Dieu. Si Dieu doit appréhender tous les faits de l'univers dans un seul regard, il faut qu'il soit présent au même instant dans tous les lieux de l'univers. Et si Dieu doit ainsi être présent dans tous les lieux de l'univers, il faut qu'il ait la possibilité d'accomplir dans l'univers tout ce qu'il veut et qui est conforme à sa nature. Donc, avec l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, nous avons trois attributs qui sont indissolublement liés dans la personne divine et en même temps qui ont besoin du cadre de l'éternité pour s'exercer, pour se manifester. Quatrième attribut en relation avec l'univers, bien qu'un peu différent des autres, c'est la sagesse de Dieu. Dieu est sage. Qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu? Eh bien, c'est justement la combinaison de tous ces trois attributs-là. De l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu. Les trois premiers attributs que nous avons vus sont les moyens par lesquels Dieu entre en contact avec sa création. Et à partir de ces trois éléments, Dieu va conduire sa créature dans l'accomplissement de son plan. Dieu a des projets pour cette création. Ça n'est pas quelque chose qui a été créé par sa fantaisie. Ça n'est pas le fruit du hasard. Dieu n'a pas créé l'univers pour faire l'étalage de ses possibilités. Vous savez, il y a cette légende, beaucoup de contes, de fées, choses semblables, du soudain du mortel qui est investi par les dieux d'une possibilité extraordinaire. Vous connaissez peut-être le conte de Grimm, où un pauvre paysan reçoit la possibilité de souhaiter trois choses et voir ses souhaits se réaliser. Alors au lieu de réfléchir et demander des choses qui vont être vraiment importantes, il dit n'importe quoi. Des choses complètement stupides, simplement pour manifester cette possibilité qu'il a. C'est-à-dire qu'il agit d'une manière dépourvue de sagesse. Si Dieu était omnipotent, omniscient, omniprésent, mais qu'il soit dépourvu de sagesse, alors on pourrait trembler. Parce que ça voulait dire que n'importe quoi pourrait soudain surgir dans l'univers. Des choses qui seraient dépourvues de signification et de sens. Mais il suffit de regarder l'univers, la création, la nature, pour se rendre compte qu'il y a un ordre, qu'il y a une intention, qu'il y a un plan rigoureux dans cet univers. Que ce dernier n'est pas livré à l'arbitraire, mais qu'il y a une intelligence pleine de sagesse qui l'a créé, qui le maintient et qui le conduit. Dieu est sage dans ce sens qu'il s'est fixé des buts compatibles, encore une fois, avec sa nature. Ça veut dire qu'ils sont des buts bons, très bons, ainsi que le dit l'auteur de la Genèse. Et deuxièmement, cela veut dire que pour atteindre ces buts, Dieu va employer les moyens les plus appropriés, compatibles avec sa nature. En fait, pour résumer ce qu'est la sagesse de Dieu, nous reprendrons ce que disait la foule devant les miracles de Jésus, « Il fait tout à merveille ». Ou encore, la parole de l'apôtre, « Toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », dit l'apôtre, mais nous pourrions nous arrêter simplement « concourent au bien ». Toutes choses ensemble concourent à l'accomplissement du plan de Dieu. Les choses ne se passent pas n'importe comment. Mais Dieu emploie pour atteindre les buts qu'il s'est fixés, les moyens les plus justes et les plus appropriés, compte tenu de sa nature et compte tenu des buts qu'il s'est fixés. Il y a donc dans l'organisation de l'univers et dans la direction de l'univers, une infinie sagesse, mais une sagesse qui échappe à l'homme. Parce que justement, l'homme manque de ces attributs que nous avons dépeints, notamment de l'omniscience. Et parfois, il nous semble que l'univers est conduit d'une manière chaotique, parce qu'il nous manque des éléments d'information. Il nous manque des éléments d'information quant au but que Dieu s'est fixé, quant aux principes par lesquels il dirige le monde, et il nous manque des éléments d'information quant aux faits que Dieu a à prendre en compte pour l'accomplissement de son plan. Et ce qui nous est alors demandé, en tant que créature limitée, c'est d'avoir foi dans la sagesse de Dieu, de croire que Dieu contrôle toutes choses, conduit toutes choses, même lorsqu'il nous semble que les choses ne sont pas dans son contrôle. C'est le cas, par exemple, devant la souffrance. Comment Dieu peut-il permettre la souffrance? Il y a là des éléments d'information qui nous échappent, que nous n'avons pas. Et il nous est alors demandé d'avoir foi dans la sagesse de Dieu. Conscient qu'un jour nous comprendrons, quand nous aurons à notre tour les éléments d'information qui nous manquent aujourd'hui, c'est-à-dire quand nous serons semblables à lui, alors nous comprendrons. Parfois, l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, peut donner surnaturellement une parole de sagesse. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? soudain cette révélation sur le plan de Dieu, sur la manière dont Dieu conduit les choses. Soudain, une situation qui nous semble dépourvue de sens trouve surnaturellement par une révélation de Dieu son sens. Bien sûr, d'une manière limitée, c'est une parole de sagesse, c'est seulement une parole. Mais elle suffit parfois à éclairer tout un contexte obscur. Cinquième attribut, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. C'est la conséquence de tout ce que nous avons dit. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il a le droit de gouverner l'univers qu'il a créé. Et qu'il le gouverne, effectivement. Que rien n'échappe à son contrôle. Rien de ce qui est. Qu'il est l'arbitre de ses créatures et qu'il conduit l'univers comme il le veut. Il existe dans l'univers des forces qui cherchent à échapper à la souveraineté de Dieu. Et c'est tout le mystère du mal. La présence du mal dans l'univers et de la lutte qui en découle montre que il y a des forces qui cherchent à échapper à la souveraineté de Dieu. Mais la Bible nous montre que quand bien même ces forces cherchent à échapper à cette souveraineté, elles ne le peuvent pas. Dieu est à lui seul plus puissant que l'ensemble des forces de l'univers qu'il a créé. En sorte que Dieu ne fait que définir à ces puissances rebelles un espace de liberté limité à la fois dans l'espace et dans le temps. Mais en fin de compte, Dieu se sert de ces forces-là pour, ainsi que nous l'avons dit, faire concourir toutes choses selon son plan. Satan, par exemple, le rebelle par excellence, Satan n'est rien d'autre qu'un serviteur de Dieu. C'est le message du livre de Job. Dieu se sert de Satan pour accomplir son plan. Dieu se sert de Satan pour éprouver Job, pour mettre en évidence les sentiments de son cœur et ensuite lui faire du bien. Dieu se sert de Satan pour mettre Israël à l'épreuve à l'époque de David. Satan ne cherche pas à servir Dieu, mais il le sert malgré lui. Ainsi qu'on a l'habitude de le dire dans nos milieux, Satan fait une œuvre qui le trompe. Et en fin de compte, sa rébellion même se retourne contre lui. Dieu utilise cette rébellion de Satan pour accomplir ses plans et ses desseins. Un jour, cela nous apparaîtra. Et Satan, par exemple, dans le livre de Job, se présente devant Dieu avec les autres serviteurs de Dieu. Et nous voyons que les possibilités d'action de Satan sont limitées. Satan demande à Dieu la possibilité d'éprouver Job. Je lui dis d'accord, jusqu'à une certaine limite. Et Satan n'a en aucune manière la possibilité de franchir cette limite-là. Alors, il y a des conséquences qui découlent de cet attribut de Dieu pratique. D'abord, nous nous rendons compte combien il est insensé et vain et mauvais de critiquer les voies de Dieu. Nous pouvons ne pas les comprendre. Et souvent, elles sont au-dessus de notre portée. La sagesse de Dieu est incommensurable à l'homme. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, dit Jésus. C'est incompréhensible. Dieu ne devrait faire, selon les voies de l'homme, pleuvoir que sur les justes. Mais Dieu n'agit pas ainsi. L'homme comprendra plus tard pourquoi. Donc il est vain, il est mauvais de critiquer les voies de Dieu. parce que nous n'avons pas les éléments d'appréciation. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu nous amène aussi à vivre dans la confiance. Dans ce sens que nous pouvons avoir la certitude que Dieu tient tout sous son contrôle, que ce soit les événements de l'univers ou que ce soit les événements de notre propre vie. Il n'arrive dans l'univers que ce que Dieu permet. Et rien de plus. Il n'arrive dans nos vies que ce que Dieu permet et rien de plus. Et parce que Dieu est souverain, Dieu peut mettre un frein aux événements qui se déroulent dans l'univers et aux événements qui se déroulent dans nos vies. Donc nous pouvons le prier. Et ainsi que le dit un slogan qu'on trouve aussi dans nos milieux, la prière change les choses. Dieu peut se laisser fléchir par les prières et soudain arrêter la marche d'un événement, d'un processus. Enfin, la souveraineté de Dieu nous amène à réaliser que nous ne sommes pas conduits par un destin aveugle et capricieux, ou par notre propre moi, mais par une infinie sagesse qui a déjà prévu chacune des étapes de notre marche, chacune des étapes de notre vie, et qui a choisi ce qui était le meilleur pour nous. Et face à cette révélation-là, nous avons deux solutions. Ou bien nous vouloir nous conduire nous-mêmes, être conduit par notre propre moi, à courte vue, et perverti par le péché, ou bien abandonner nos vies entre les mains de celui qui est infiniment sage et infiniment bon, et qui va alors les diriger pour que toutes choses ensemble concourent à notre bien. Et ceci est la base de la consécration chrétienne. C'est parce que nous avons cette assurance que Dieu est souverain que nous pouvons lui abandonner notre vie et nous consacrer à lui. C'est parce que nous avons l'assurance que Dieu est souverain que nous pouvons renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix et le suivre. Parce que même si nous sommes amenés à passer par un chemin étroit, nous serons finalement amenés à marcher dans ce qui est le meilleur. Alors, voilà ce que sont les attributs de Dieu en relation avec sa création. Omnipotence, omniprésence, omniscience, sagesse et souveraineté. Par ces attributs-là, Dieu conduit le monde. Et dans la mesure où nous sommes un des éléments du monde, aussi petit soit-il, Dieu est aussi celui qui peut conduire nos vies. Et finalement, le seul élément qui nous permet d'échapper à la souveraineté de Dieu, c'est notre propre refus de nous y soumettre. Mais nous n'échappons pas vraiment à la souveraineté de Dieu, parce que cette souveraineté de Dieu, au lieu de s'accomplir d'une manière directe, ce qui est alors le meilleur, s'opérera au second degré. Comme pour le roi de Babylone ou le roi d'Assyrie dont nous parlons tout à l'heure, ou pour Gog. Mais dans ce cas-là, au lieu de s'accomplir en faveur de celui qui se soumet à la volonté de Dieu, lorsque la volonté de Dieu s'accomplit au second degré dans une vie, c'est contre lui. Et c'est toute la différence entre les justes et les rebelles, entre ceux qui donnent leur vie au Seigneur et ceux qui la lui refusent. Personne, de toute façon, n'échappe à la souveraineté de Dieu. Mais cette souveraineté de Dieu peut s'exercer en notre faveur ou bien alors contre nous. Et finalement, l'homme est celui qui choisit dans ce domaine comment la souveraineté de Dieu s'exerce dans sa vie. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. La prochaine fois, nous verrons les attributs de Dieu en relation avec sa nature morale.